Racontez-nous votre Montpellier.
On se trouve ici à Montpellier.
Quels sont les lieux, y compris hors de l'Écusson, qui ne figurent pas sur les cartes postales, que vous aimez particulièrement et auxquels vous êtes attaché?
Ce qui reste aujourd'hui pour moi, qui suis montpelliéraine, c'est Antigone.
Racontez-nous votre Montpellier.
Et vous l'avez compris, effectivement, mon quartier de naissance, c'est Sarov.
Donc vous êtes une montpelliéraine, un pur jus.
Ben Montpellier, pour moi, c'est une histoire qui m'a jamais quitté.
Une émission proposée par Alain Doudiès pour partir à la rencontre de Montpellier et des Montpelliérains.
Amis auditrices et amis auditeurs de Racontez-nous votre Montpellier, bonjour. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir un lieu d'accompagnement et d'accueil de personnes en grande précarité. L'avenir de ce lieu est incertain. Il s'appelle l'Utopia. L'Utopia, L-U-T-O-P-I-A, donc vous le comprenez, une sorte de contraction de lutte et d'utopie. Pour nous en parler, deux témoignages complémentaires, celui de Gwenlan, cofondatrice et directrice de l'association, et celui de Serge Leboucher, avec sa double qualité, sa double expérience, longtemps là, de sans domicile, il sait de quoi il s'agit, et depuis un an, de bénévole au sein de l'Utopia 4. Merci à chacun de vous d'avoir répondu à mon invitation, et même question à l'un et à l'autre. Alors Gwenlan, qu'est-ce qui, depuis longtemps, motive votre très fort engagement, connu à Montpellier, de beaucoup de personnes dans ce type d'activité? Qu'est-ce qui vous motive? Qu'est-ce qui vous fait vous lever le matin depuis longtemps?
Bonjour à tous. Eh bien, peut-être la colère due à l'injustice, toutes les formes d'injustice sociale. Voilà. Est-ce qu'on peut tolérer ce constat?
Ouais, donc faisons quelque chose.
Voilà, c'est ça.
Et faisons face à ça.
Donc levons-nous le matin.
Très bien. Et vous, même chose, hein, pourquoi êtes-vous devenu, on y reviendra, bénévole? Qu'est-ce qui vous a fait en sorte que vous n'étiez pas simplement bénéficiaire de ce qu'apporte l'Utopia, on en parlera, mais également que vous avez décidé de mettre la main à la pâte?
Eh bien, tout simplement, c'est la rencontre avec l'Utopia. Je pense que la rencontre avec l'Utopia, tout simplement, puisque la méthode de fonctionner amène ceux qui croisent leur route à s'investir, tout simplement. Oui. Parce que c'est une démarche, bien sûr, d'urgence pour résoudre des problèmes immédiats, qu'ils soient d'hygiène ou autres. Mais en même temps, on tombe dans un projet où on se rend compte qu'il y a plein de gens qui sont très actifs et on se rend compte que parfois des solutions transversales ou inclusives sont plus efficaces que l'institutionnel pur et des gens comme Gwen que l'on rencontre, qu'on n'imagine pas être présents au quotidien.
Et puis une part, je dirais, d'humain, de relations humaines, bien sûr, déterminantes dans les deux cas.
Voilà.
On va le voir, si c'était nécessaire, vous en ferez la démonstration. Avant que vous me permettiez de bien comprendre ce qu'est l'Utopia, un peu de bref détour, comme d'habitude dans cette émission, à votre tour d'apporter votre part au portrait de la ville, brossé collectivement par mes invités, par petites touches successives, semaine après semaine. Serge Leboucher, quel est le lieu de Montpellier auquel vous êtes particulièrement attaché et pourquoi ?
Alors, moi, c'est un square en réalité, tout simplement. Un petit parc, qui n'est pas très loin d'ici d'ailleurs, c'est le parc Alain Bachung.
Rappelez aux auditeurs où il est. Oui.
Près d'Arène, entre la cité Saint-Martin et l'avenue Maréchal
d'accord,
Leclerc.
C'est à 5 minutes de la radio, d'accord.
D'ici. Et en définitive, tout simplement parce que avant que je n'ai plus de toit, mon toit a été à cette adresse pendant très longtemps et j'ai vu mes enfants grandir. D'accord. Donc à chaque fois, j'ai une petite tendresse pour ce lieu parce que je vois ma fille aussi bien à l'âge de 2 ans qu'à 17 parce que j'y suis resté longtemps, soit accompagner son frère, soit traverser le parc. Donc voilà, c'est complètement familial.
C'est un rapport personnel.
Avec Montpellier.
Et vous, Gwen?
Ça serait le quartier de Celle-Neuve où j'y ai élevé mes 3 enfants et avec toute l'énergie de ce quartier.
C'est le village
ou ce qui reste? Oui, le village et tout ce qu'il y a autour. Hein. Donc effectivement, historiquement, Celle-Neuve est un village plus vieux que Montpellier. Et maintenant, c'est devenu un quartier à part entière de Montpellier. Mais voilà, j'y ai passé 24 ans de ma vie où j'y ai fait grandir mes enfants. Donc oui, c'est toujours le quartier où j'aime revenir.
Très bien. Alors donc, je vous remercie. Maintenant, en route pour l'Utopia. Donc depuis 12 ans, l'Utopia agit à Montpellier pour soutenir des personnes particulièrement vulnérables. La troisième phase, la troisième étape de ces actions, l'Utopia 3, donc, s'est basée dans le quartier des Beaux-Arts, dans le squat du bâtiment des anciennes archives municipales. J'imagine qu'un certain nombre d'auditeurs et auditrices s'en souviennent. Un film réalisé par Guillaume Tricard et intitulé L'Utopia raconte, avec de nombreux témoignages, 6 ans de mobilisation et de solidarité pour l'hébergement et le soutien de plusieurs dizaines de personnes. Et ce film décrit aussi la question du mal-logement et du sans-abrisme à Montpellier, dont on va parler. Alors, il n'est pas accessible en ligne ou autrement, ce documentaire, mais j'indique qu'il sera projeté le 2 juillet prochain à 20h30 à Clermont-Lérault. Nouveau chapitre donc de l'Utopia depuis 2021, avec l'Utopia 4, située 88 bis avenue de Toulouse. On reconnaît cette maison à la fresque sur la façade inspirée de Banksy. Alors Gwenlan, pourquoi vous êtes-vous installé là et dans quelles conditions là, juridiques et matérielles ?
Alors c'est une maison qui nous a été mise à disposition à la suite de la résorption du squat des archives pour le lancement de ce qu'on appelle l'habitat intercalaire.
Donc, qui est une formule juridique particulière.
Exactement, hein. Qui permet un cadre juridique pour mobiliser des biens vacants et les mettre à disposition aux associations. Donc c'est comme ça qu'on arrive sur cette avenue de Toulouse, voilà, pour pouvoir continuer notre travail, tout le travail qu'on avait entrepris entre 2014 et 2021 en occupation sans droit ni titre et qui nous permet du coup... depuis 2021, d'avoir un cadre légal dans lequel on peut évoluer.
Depuis 5 ans, donc.
Correctement, tout à fait.
Très bien. Et alors, vous, depuis quand vous fréquentez l'Utopia, là, Serge ?
Alors, moi, c'est ma démarche, bien sûr, personnelle. Ça fait 3 ans, à peu près, que j'ai rencontré l'Utopia. Tout simplement parce que je suis...
Concerné, comme étant quelqu'un.
Plus que concerné, puisqu'il m'apportait le soutien dont j'avais besoin, aussi bien pour pouvoir y manger à midi que pouvoir y faire mes machines ou rencontrer des gens. C'est-à-dire que, tout simplement...
à laver.
Oui, bien sûr. Machine à laver, mais ça pour nous c'est le code. Et tout simplement, j'ai croisé des accueils de jour, puisqu'il y a différents accueils de jour qui sont présents à Montpellier, qui sont fondamentaux tous. Mais par contre, j'ai rencontré à l'Utopia, comme j'en parlais tout à l'heure, une autre approche. Au niveau de la convivialité, de l'inclusion.
C'est pas une espèce de guichet anonyme.
Non.
Comme on peut le dire,
oui,
certaines associations le sont.
À taille humaine.
C'est, voilà, comment il y a des rencontres qui produisent des effets.
Voilà, à taille humaine, même si il y a eu une explosion pratiquement exponentielle du nombre d'accueillis au quotidien. Ils sont passés de 25 à 60 sur les dernières semaines par jour, personnes qui venaient manger à l'Utopia, faire une machine ou des papiers administratifs et autres. Donc c'est à taille humaine, mais la volonté, même si cela ne dit pas, c'est qu'à la limite, la structure puisse accueillir encore plus de monde. Merci. Et je pense qu'on peut garder cet esprit. Il n'est pas dépendant uniquement des volumes, quoi. On peut avoir un esprit ainsi, inclusif, différent, transversal.
C'est pas une question de taille.
Voilà, tout en ayant beaucoup de volumes traités, quoi. Je pense que les deux, c'est l'approche qui change, surtout.
Très bien. Alors, avant que nous donc, voyons ce qui s'y fait, parlons tout de suite de la situation très difficile de l'Utopia actuellement et prochainement. Vous allez devoir partir. Alors dites-nous pourquoi et quand, quelle est la cause. Et bien sûr, on va voir les effets de cette nécessité de quitter ce lieu donc, où vous êtes depuis maintenant plus de 5 ans.
Alors c'est justement la limite de cet habitat intercalaire, c'est que ça vient s'intercaler entre 2 projets d'urbanisme. Donc la durée d'occupation est conditionnée au temps qu'il faut au propriétaire pour engager de nouveaux projets. Du coup, c'était une convention de 3 ans, donc on devait déjà partir en juin 2024. On a été prolongé jusqu'en septembre 2025. Et dans l'année 2025, on a eu encore une prolongation jusqu'en septembre 2026. C'est-à-dire très bientôt. Et grâce à toute cette campagne d'appel à soutien, d'appel à dons, grâce à vous, les médias, et vous tous, les donateurs de ce crowdfunding qui a démarré mi-avril, eh bien, nous avons obtenu des rendez-vous des rendez-vous très, très importants avec les nouveaux élus à la municipalité, notamment la nouvelle élue aux solidarités, Madame Muriel Rézikier. Et à partir de là, tout un travail démarre, un travail de recherche d'un nouveau bâti pour l'Utopia. Donc nous avons été prolongés jusqu'au 30 décembre, donc on a obtenu 3 mois supplémentaires sur l'avenue de Toulouse. Et c'est pas pour autant qu'on pourra peut-être réouvrir cet accueil de jour, mais par contre ça va nous laisser le temps pour travailler avec les services compétents à la recherche d'un nouveau bâti, à toutes les visites en lien et possiblement un déménagement avant la fin de l'année sur un nouveau lieu pour l'Utopia qui soit un lieu en situation pérenne, c'est-à-dire bien plus long que cette question de l'intercalaire. Ouais.
Alors, 2 opérations d'urbanisme. Il y en a une première dont on a vu les effets, c'est un accès au parc Pancan. Un certain nombre de maisons voisines de la vôtre ont été détruites pour dégager une nouvelle et large entrée vers le parc. Donc, ce travail là, d'aménagement de ce lieu va se poursuivre. C'est donc la raison pour laquelle la maison où vous êtes va être comme ses voisines détruites. Et le deuxième, c'est un aménagement de l'avenue de Toulouse avec bon, des voiries, des pistes cyclables et tout, qui elles aussi vont impacter, je dirais, la physionomie du quartier et l'implantation de cette série de petites maisons qu'on croise jusqu'à présent.
Si je peux me permettre, il y avait déjà une ouverture au même endroit, oui, hein, il y avait déjà une entrée du parc Montcalm, et il y avait déjà une piste cyclable. Voilà. Donc effectivement, là, on est sur ouvrir complètement cette avenue de Toulouse au parc Montcalm, donc avec quelque chose d'un peu plus majestueux, effectivement, pour mettre en valeur ce parc, hein, qui est très très beau et qui accueille beaucoup de monde. Mais la question va être de quel sera le devenir de tous ces occupants en droit et en titre, hein, sur cette même avenue, puisque on a encore actuellement des locataires et des commerces.
Mais des voisins. Donc.
Et voilà. Et nous aussi. Alors nous, effectivement, on a un début de réponse, voilà. Et si c'est pour encore une fois déshabiller Paul pour habiller Jacques, voilà, ça pose quand même question.
Bien sûr. Alors, deuxième problème concomitant, de graves difficultés financières. Alors, dites-nous ce qu'il en est, comment s'analyse cette situation. Quand on suit la vie publique ou la vie associative, on a une petite idée de la chose, mais qu'est-ce qui se passe et quels sont les effets négatifs de la réduction des ressources ?
Eh bien, ce qui se passe, c'est ce qui se passe pour énormément d'associations, hein. Des restrictions budgétaires qui viennent de tout en haut, qui ont un impact sur le budget des collectivités locales et un impact même jusqu'aux fondations privées, hein, puisque les fondations ont moins de donateurs. En parallèle, le prix des matières premières et de l'énergie qui explose. Pour certains, les loyers aussi également. Voilà. Alors nous, ce n'est pas notre cas, mais en tout cas, ça pourrait l'être pour beaucoup. Comme Serge l'a très bien dit, voilà, une montée en gamme, si je puis dire, où on avait une moyenne de 25 personnes accueillies par journée d'ouverture. Et
au départ, quoi, 21, 22
Entre 2000... L'accueil de jour a ouvert en 2022. Donc 2022-2023, on était sur une moyenne de 18 à 22 personnes. 2023-2025, on était sur à peu près 26-30 personnes. Et là, on est à plus de 50 personnes par journée d'ouverture.
Donc ça a doublé en 2-3 ans.
Oui,
quoi.
Complètement.
On peut dire ça
complètement.
Comme ça.
L'année 2026,
alors,
là,
on en parlera tout à l'heure, parce qu'il y a d'autres lieux d'accueil. Alors, c'est le moment d'indiquer aux auditeurs, vous avez évoqué comment les auditeurs peuvent apporter leur aide, donc l'ouverture d'une cagnotte, hein, crowdfunding, hein, comme on dit. Dites-nous voilà, comment on peut y accéder et où en est cette cagnotte lancée donc au mois d'avril.
Oui, alors on l'avait ouverte jusqu'au 30 juin, donc certainement qu'on va devoir la prolonger, puisqu'on a obtenu pour l'instant 31%. Du montant qu'on s'était fixé. Ouais,
hein,
L'objectif
était 50 000 euros. C'est ça.
Voilà, on est à 31%, ce qui fait un peu plus de 16 500 euros à peu près. Donc c'est super, hein, c'est déjà énorme, et on remercie bien évidemment tous les donateurs, mais ça ne pourra pas suffire pour reconduire nos activités. Ça nous permettra de maintenir quelques activités transversales,
on va les décrire,
mais certainement pas la possibilité de réouvrir l'accueil de jour pour le moment.
Alors, précisément, cet accueil de jour a fermé depuis le 30 avril, c'est bien ça. Oui. Alors, Serge Lebouger, vous me l'avez dit quand on a préparé l'émission, quelles sont les conséquences, pourquoi cet accueil est-il si important, au-delà même, je dirais, des services qu'il rend aux personnes qui sont accompagnées.
Les conséquences sont nombreuses, mais on oublie souvent la principale, c'est que on tue à petit feu, on m'enlève de l'espérance de vie. Il est clair que de nos jours, vous pouvez le vérifier hyper simplement, parce qu'il y a des outils, ce qui sont terribles d'ailleurs, interactifs, qui permettent de le faire, de calculer votre espérance de vie selon vos revenus. Oui. Déjà, l'outil est affreux. Mais quand vous vous en servez, vous vous rendez compte que à 55 ans, si vous perdez la moitié de votre salaire médian, etc., ce jour-là, vous perdez en même temps 8 ans d'espérance de vie, parce que vous serez assujetti mécaniquement à la précarité. Et donc, quand on m'enlève des outils comme l'Utopia ou d'autres accueils de jour, mais en particulier l'Utopia, puisqu'on en parle aujourd'hui, c'est vraiment m'enlever ce qu'ils m'apportent pour m'extraire de la précarité, des conséquences de la précarité. Donc, en définitive, tout simplement, quand on m'enlève l'Utopia, on m'enlève de l'espérance de vie. C'est vraiment ça. C'est 13 ans entre des salaires très bas et des salaires élevés, sans pour autant parler des nouveaux riches ou des multiriches, des milliardaires, hein. Juste la différence entre 1 000 et 6 000 euros par mois en France. C'est 13 ans. 13 ans de vie. C'est incroyable. Et qu'on puisse le dire.
Ça, c'est une moyenne calculée.
Oui, oui, tout à fait.
Ça fait un avantage.
Bien sûr, parce que la moyenne de vie d'un jeune qui serait à la rue depuis 14 ans, comme c'est souvent le cas, parce qu'il y a des parcours qui mènent à la rue, ce n'est pas comme ça, ça ne tombe pas du ciel. Ces gens-là, ils vont rarement au-delà de 50 ans. Quoi. Donc, mais bon, sur une moyenne, ne serait-ce que... Et donc, voilà, la première des conséquences, c'est ça, mais c'est aussi plein d'autres choses, parce que ces petites choses, comme une machine à laver, comme un filet du dentifrice, ou une brosse à dents, ou un peigne, ça, c'est aussi fondamental. Mais, je veux dire, humainement parlant, moralement parlant, que l'on puisse accepter qu'un outil comme l'Utopia disparaisse alors qu'on en connaît les conséquences parfaitement, c'est proprement scandaleux, oui.
Alors oui, on l'a un peu évoqué, Gwendaz, donnez-nous des précisions par rapport aux autres lieux d'accueil à Montpellier, et notamment pour nous dire quelle est l'importance de ces besoins d'hébergement à Montpellier de personnes sans-abri, quelle est l'ampleur du phénomène qu'on appelle, le mot n'est pas très joli, le sans-abrisme. En clair, des gens qui dorment dans la rue ou dans des conditions très difficiles.
Alors, l'importance de tenir ouvert des lieux d'accueil de jour, c'est justement pour pallier au manque criant d'hébergement d'urgence et la difficulté d'accès au logement. Effectivement, c'est comment est-ce qu'au moins en journée, on peut répondre aux besoins primaires, mais on peut avoir aussi des espaces un peu de fraîcheur en cas de canicule, et à contrario des espaces un peu chauffés en hiver. Donc il y a une réalité sociale, elle est là, c'est 2000 personnes en errance dans la ville de Montpellier, c'est à peu près 150 enfants.
2000 personnes.
Oui, oui.
Ces personnes, on n'en voit que peu ou pas. Alors, on n'a pas l'idée.
Alors on ne les voit pas si on n'ouvre pas les yeux en se baladant dans la ville, mais elles sont omniprésentes. Alors oui, on a tendance toujours à dire que ce sont des personnes invisibles. Alors elles sont plutôt invisibles pour le système administratif, mais en vrai, tout le monde peut voir ces gens, puisqu'on ne peut pas les effacer, on ne peut pas faire comme s'ils n'étaient pas là. Ils sont toujours de plus en plus nombreux, hommes, femmes, enfants. Bien évidemment que l'instinct de survie et la dignité humaine va faire que ces personnes vont plus ou moins se cacher ou plus ou moins s'exposer au contraire, mais en tout cas c'est bien là la nécessité de maintenir des lieux d'accueil de jour ouverts, et Utopia 04 c'était le quatrième lieu d'accueil dédié à ces personnes. Donc forcément aujourd'hui il y en a de nouveau plus que trois. qui heureusement existe encore, mais allez savoir jusqu'à quand.
Citer rapidement, oui.
Oui, alors vous avez l'association GAM qui gère Chorus et son extension qui est l'accueil de Richter au niveau des rives du Lez, donc ça en fait un gros, on va dire. Vous avez la Croix-Rouge au niveau du Jardin des Plantes, et vous avez Saint-Vincent-de-Paul au niveau de Chorus. Donc, ceux-là sont des très gros accueils qui accueillent entre 200 et 400 personnes par journée, hein, ou par matinée. Et il y avait Utopia 04 à raison de deux fois par semaine. Donc, en fait, c'est pas pour c'est pas du luxe, quoi. C'est pas pour faire joli, c'est-à-dire que c'est un impératif absolu. Au-delà de répondre aux besoins purement primaires, il y a aussi la nécessité d'avoir des espaces de repli, de repos, en sécurité, à l'heure où on parle, rien que la semaine dernière, hein, on a eu encore deux décès. Donc on pourra nous dire oui, c'est à cause de la chaleur, ou peut-être que c'est une overdose. En fait, on s'en fout. En fait, une fois de plus, il y a eu encore deux personnes mortes de la rue et des conséquences de la rue dont on parle jamais assez. Oui, tout à fait. Donc voilà pourquoi il est fondamental de maintenir ces lieux actifs.
Alors, on voit bien quelle est l'ampleur du sujet, sa gravité. Alors, regardons un peu près comment l'Utopia 04 fonctionne. Alors, de quels moyens disposez-vous, votre équipe, hein, et pour quelles différentes activités? Elles ont été dites, mais je vous propose de les lister, qu'on voit un peu la diversité et le nombre des soutiens de diverses natures que vous apportez. Alors, l'équipe, hein, oui, deux mots sur les gens qui vous
entourent. Alors, jusqu'au 30 juin, nous sommes 5 salariés. Ce qui représente 3 temps plein et demi. Donc Mohamed, qui est moniteur éducateur, Sifu, qui est éducateur spécialisé, Yannick, assistant de médiation, Colline, assistante de direction, et moi-même, directrice de la structure. Ensuite, il y a tous ces bénévoles profil père aidant, comme Serge, mais plein d'autres, qui sont des personnes qui sont expertes du sujet et qui sont les plus à même à savoir de quoi les gens sans-abri ont besoin, et qui, en même temps qu'ils bénéficient également de tous ces outils de solidarité, sont acteurs de ces mêmes outils de solidarité. Donc le lieu est organisé de manière à ce qu'il y ait des espaces de repos, des activités manuelles, des jeux de société, des espaces bureaux pour travailler, pour entreprendre des démarches administratives, une cuisine partagée qui permet d'élaborer tous ensemble les repas qu'on va manger nous-mêmes avec des produits de récupération alimentaire, ouais. Principalement grâce à Biocop de ouais. Clémenceau pour les fruits et les légumes, et après quelques produits de base que nous achetons nous-mêmes. Voilà, donc c'est un peu tout ça, certainement que j'en oublie. La machine à laver, on l'a déjà dit. Mais pendant qu'on fait la machine à laver, on peut prendre
la douche. La
douche,
parce que ça a été dit, voilà.
Ah
voilà,
oui.
Voilà. Tout le côté hygiène.
Donc plein de petites choses.
Et puis le côté aussi aide aussi administrative.
Ouais, bon, ça, j'imagine, c'est très important.
Qui est fondamental pour une acquisition d'une pièce d'identité, ou pour avoir un accès de nouveau à une couverture sociale. Des fois, on est isolé, on ne sait plus comment intervenir. Là, l'apport des travailleurs sociaux est plus qu'important, parce qu'ils ont des passerelles directes, ils ont des cheminements qu'ils connaissent, qui vont pouvoir résoudre un problème. Qui prendra du temps, parce que tout prend du temps, mais au lieu de prendre 4 mois, ça sera 3 semaines. Quoi.
Ce qu'on appelle, quand il y a un projet dans une commune, l'expertise du quotidien, l'expertise des habitants, et ça, voilà. C'est l'expertise de la vie que ces personnes ont. Donc on comprend mieux. Alors, un des grands principes, il a été évoqué, mais je vous propose qu'on y revienne, est de construire l'aide aux personnes accompagnées avec elles. Comment ce principe qui vous distingue, vous n'en avez pas l'exclusivité, mais il vous distingue de bien des lieux, des centres.
Absolument pas l'exclusivité.
Mais comment ça se traduit?
C'est la loi de 2002. La loi de 2002, elle est spécifique, hein, à l'ensemble des travailleuses sociaux, de permettre que les personnes concernées soient au cœur oui. du sujet. Donc en fait, c'est pas l'Utopia qui a inventé ce concept-là, hein. C'est la loi de 2002, et j'imagine qu'avant cette loi de 2002, il y avait déjà des travailleurs sociaux qui pratiquaient de cette manière, pour la simple et bonne raison qu'on ne peut pas contraindre les personnes, que très souvent c'est une question de timing. Et ça, peut-être que Serge pourra en parler. C'est-à-dire qu'en fait, il ne s'agit pas d'en déduire que vous auriez besoin d'une douche, par exemple, puisque si cette douche, vous ne souhaitez pas vous-même la prendre immédiatement et que vous préféreriez avant ça, par exemple, boire un café, en fumant une cigarette avec quelqu'un pour avoir un semblant de vie normative, bah, en fait, ça doit être possible. Et que nous, notre rôle, c'est de pouvoir décaler ce temps de la douche pour que ça rentre dans le timing des personnes. Bah, c'est exactement pareil en travail social. C'est-à-dire qu'en fait, on n'est pas là pour faire à la place des gens ou pour même décider de quoi que ce soit à la place des personnes, mais bien au contraire, de pouvoir être là au moment où elles le décident et d'activer avec elles des leviers qui vont leur permettre... de faire les démarches qu'elles ont décidé de faire, puisqu'elles sont les mieux placées pour savoir ce dont elles ont besoin et envie. Donc, en fin de compte, ce n'est pas un concept philosophique, hein. C'est vraiment inscrit dans la loi, et peut-être que nous sommes tout simplement au plus près de cette loi.
Alors, est-ce que, on voit bien que c'est une manière de respecter les personnes, mais est-ce que aussi ça peut être un des facteurs de la réussite de leur démarche, de leur évolution ? Est-ce que, est-ce que ça,
évidemment.
Outre une espèce de respect humain, il y a quelque chose de recherche de l'efficacité qui peut passer
par là ? Alors justement, c'est la question du temps long. Et très souvent, en travail social, on a que peu de temps à dédier à l'accompagnement des personnes, puisque très souvent, on va travailler dans des services administratifs ou institutionnels qui conditionnent l'accompagnement sur des durées. L'Utopia, c'est du temps très long. Donc, on peut accompagner des personnes pendant plusieurs années, indépendamment des lieux qu'on occupe, hein. Et c'est ça le secret. C'est de garder ce lien avec les gens.
Donc c'est tout sauf le coup par coup.
C'est là que vous pourrez mesurer le qualitatif. C'est bien sur le temps long. Et en plus, ce n'est même pas notre objectif. Notre objectif n'est pas de faire du quantitatif, puisque dans un monde idéal, ça serait l'éradication du sans-abrisme, hein, notre objectif. Donc du coup, à terme, de ne plus avoir à travailler ces questions-là et peut-être d'aller faire autre chose. Donc pour l'instant, malheureusement, on en est loin. Le taux de réussite, si on peut appeler ça comme ça, c'est pas du tout des termes qu'on utilise nous, mais en tout cas, ça serait bien d'avoir le temps. Et pour avoir le temps, il faut qu'il y ait un lieu qui soit pérennisé,
avec peut-être du temps elles-mêmes.
Des personnes dans l'équipe qui soient stabilisées également, et avec un minimum d'argent, hein, pour pouvoir fonctionner correctement.
Très bien, alors nous avançons, donc on a évoqué les prochaines semaines, on sait qu'elles seront à différents titres décisives, donc l'échéance du 31 décembre, vous avez expliqué où on était dans les contacts avec les partenaires, notamment la ville de Montpellier, pour trouver le lieu adéquat, avec la surface nécessaire, avec le label espace recevant du public et également l'accès aux personnes à mobilité réduite. Voilà pour ce volet. Et pour l'autre volet, en ce qui concerne les ressources financières publiques, les subventions, où en êtes-vous ? Quelles sont les perspectives ? J'imagine que vous allez au contact, vous essayez de trouver les voies et moyens pour que vos ressources se stabilisent, faute d'augmenter. Vous pouvez nous dire un mot de la situation financière ou des prévisionnels que vous essayez d'élaborer ?
Eh bien, justement, c'est en faisant tout ça qu'on s'aperçoit que à compter du 30 juin, il reste plus grand-chose dans les caisses. D'où les choix stratégiques qu'on a eu fait de fermer cet accueil de jour au 30 avril pour avoir le mois de mai et le mois de juin pour se concentrer sur de la levée de fonds. Donc pour l'instant, on n'a pas réussi à obtenir d'accord de gros mécènes. On a uniquement voilà, les 15 000 et quelques euros qui sont sur ce crowdfunding, qui sont déjà très bien. Hein. Mais en termes d'argent public, nous, en tout cas, on ne peut pas dire que c'est nous qui contribuons au trou dans la caisse, puisqu'on est à 9 000 euros hein, en tout et pour tout d'argent public. Et que le reste de ce que nous avons en budget, c'est par le biais des fondations. Donc la Fondation pour le logement, hein, avec qui on est en lien depuis des années, et la Fondation de France que nous avons rencontrée l'année dernière.
Ex-Fondation Abbé Pierre.
Anciennement Fondation Abbé Pierre. Et du coup, ben, c'est en partie pour cette raison, du coup, que les enveloppes ont baissé. C'est-à-dire qu'on était à 35 000 euros. D'apport et puis depuis cette année bah c'est 20 000 euros donc il y a 15 000 euros en moins et la Fondation de France pareil n'a pas pu nous soutenir au-delà de ce qu'elle peut donc à raison de 20 000 euros l'année dernière donc c'était pour finir l'année dernière et 5 000 euros cette année voilà. Donc en fait forcément le compte n'y est pas et avec comme on l'a dit tout à l'heure plus de deux fois plus de monde accueilli et avec les charges hein, qui ont considérablement augmenté du coup de fait donc on n'a pas de quoi finir l'année
la
dans cette forme-là.
La reste ouverte, donc on va
terminer. Et la cagnotte va certainement on va terminer être prolongée là-dessus, au-delà. Ouais.
Nous avons notre petite demi-heure vient de s'achever, donc je rappelle aux auditeurs, ou j'indique aux auditeurs, comment soutenir l'Utopia par un accès en ligne à la cagnotte. Alors, c'est LOASSO, c'est collé, LO, bien sûr, comme LO, collé ASSO, 2SO, point l'Utopia, bon, vous arrivez presque tout de suite à l'accès. À la manière très simple d'apporter votre écho. Je vous remercie l'un et l'autre de votre contribution pour
merci
que nos auditeurs sachent ce qui se passe dans notre bonne ville. Chers auditeurs, chers auditrices, à la prochaine. Racontez-nous votre Montpellier.
Merci.
Racontez-nous votre Montpellier.
On se trouve ici à Montpellier.
Quels sont les lieux, y compris hors de l'Écusson, qui ne figurent pas sur les cartes postales, que vous aimez particulièrement et auxquels vous êtes attaché?
Qui reste aujourd'hui pour moi, qui suis Montpellier-Reine, c'est Antigone.
Racontez-nous votre Montpellier.
Et vous l'avez compris, effectivement, mon quartier de naissance, c'est Saint-Roch.
Donc vous êtes une Montpellier-Reine pur jus.
Bah Montpellier, pour moi, c'est une histoire qui m'a jamais quitté.
Une émission proposée par Alain Dudiès pour partir à la rencontre de Montpellier et des Montpelliérains.